Chapitre 43. Débarrassé de mon attirail, je continue à avancer dans la forêt, uniquement concentré sur la marche. Je n'ai même plus besoin de marquer les arbres, ni de me souvenir du chemin de retour. J'ai même cessé de regarder le paysage alentour. De toute façon, c'est toujours le même. Les arbres enchevêtrés, des lianes qui pendent, des racines noueuses, des tas de feuilles pourries, des carcasses desséchées d'insectes, des toiles d'araignées épaisses et gluantes, et d'innombrables branches, un univers entier. Des branches menaçantes, d'autres qui se disputent l'espace, d'autres encore qui se dissimulent habilement, des branches tordues, des branches songeuses, des branches sèches, des branches mortes. Ce paysage se répète à l'infini. Simplement, chaque fois, la forêt devient plus profonde. La bouche fermée, je poursuis mon ascension sur ce sentier. Il monte continuellement. La pente est douce pour l'instant, pas assez raide pour que je m'essouffle en tout cas. De temps à autre, le sentier se perd dans le sous-bois ou dans des buissons épineux, et j'avance à l'aveuglette. Mais, un peu plus loin, un semblant de lion réapparaît. La forêt ne me fait plus peur. Elle a ses propres règles, sa propre organisation. Quand on cesse d'avoir peur, on commence à les comprendre. J'absorbe ce paysage répétitif. J'en fais une partie de moi-même. J'ai les mains vides désormais. J'ai lâché la bombe de peinture que je tenais précieusement, ainsi que la serpette bien aiguisée. Plus de sac, plus de gourde ni de nourriture, plus de boussole. J'ai tout abandonné. Je veux montrer à la forêt que la peur m'a quitté et que j'ai choisi d'avancer sans protection. Ou peut-être que je cherche à m'en persuader moi-même. Je me dirige vers le centre du labyrinthe, seul, sans carapace, livré au vide qui m'attend là-bas. La musique qui retentissait au fond de mes tympans s'est tue. Il n'y a plus qu'un grand silence. Comme un drap blanc étalé sans un pli sur un grand lit. Je pose les doigts sur ce drap et le caresse du bout des doigts. La blancheur continue à l'infini. La sueur suinte de mes aisselles. J'entrevois de temps à autre, entre les hautes branches, un ciel couvert de nuages gris. Mais la pluie ne menace pas encore. Les nuages sont immobiles. La scène figé. Les oiseaux perchés sur les branches faîtières se lancent des cris stridents qui remplissent l'air de signes dont le sens m'échappe. Les bruissements d'ailes des insectes dans les herbes résonnent comme les prophéties d'un cœur antique. Je pense à la maison de Nogata où plus personne ne vit. Elle est sans doute fermée. Qu'elle le reste, cela m'est bien égal. Que le sang qui a suinté sur son sol y reste. Ce n'est pas mon affaire, je n'y retournerai jamais. Déjà, avant que le sang y soit réellement versé, beaucoup de choses étaient mortes dans ce lieu. Ou plutôt, beaucoup de choses y ont été assassinées. Parfois, la forêt essaie de me menacer, tantôt d'en dessus, tantôt dessous mes pieds. Je sens son souffle glacé sur ma nuque. Il me perce la peau, se transforme en mille yeux perçants. La forêt tente de se débarrasser de moi comme d'un corps étranger. Peu à peu, j'apprends à laisser passer ces menaces sans réagir. Cette forêt n'est-elle pas une partie de moi-même? À partir d'un certain moment, c'est ainsi que je me suis mis à voir les choses. Je voyage à l'intérieur de moi-même. Comme le sang à l'intérieur des veines. Ce que je vois ainsi est l'intérieur de moi-même. Les tentatives d'intimidation de la forêt ne sont que l'écho de ma propre peur. C'est mon esprit qui a tissé les toiles d'araignée que je vois ici. Et les oiseaux au-dessus de ma tête, c'est moi qui les ait élevés. Ces images, nées en moi, s'y sont enracinées. Je continue à progresser sur le sentier de la forêt comme si les battements d'un cœur géant me poussaient en avant. Ce chemin mène à un lieu particulier de moi-même. Une lumière d'où sourdent les ténèbres, un lieu où naissent des échos silencieux. Je veux voir ce qu'il y a là. Je suis porteur d'une lettre hermétiquement scellée, d'un message secret destiné à moi-même. Une question se formule en moi. Pourquoi ne m'a-t-elle pas aimé? Ne méritais-je pas l'amour de ma mère? Cette question a calciné mon cœur, dévoré mon âme pendant des années. Il devait exister un problème fondamental en moi-même pour que ma mère me refuse ainsi son amour. Je devais porter de naissance une souillure qui m'empêchait d'être aimé. Étais-je né pour que tout le monde se détourne de moi? Ma mère ne m'a même pas serré dans ses bras avant de partir. Sans un mot, elle s'est détournée de moi et elle est partie en emmenant ma sœur avec elle. Elle a disparu comme une fumée silencieuse et son visage s'est éloigné de moi pour l'éternité. Au-dessus de ma tête, un oiseau pousse à nouveau un cri perçant. Je regarde le ciel, toujours ses nuages gris et bas, inexpressifs. Il n'y a pas de vent. Je poursuis ma marche. J'avance sur le rivage de ma conscience. Les vagues viennent lécher la grève et refluent en laissant des lettres derrière elles. Puis elles reviennent et les effacent. J'essaie de déchiffrer les mots écrits entre les vagues. Mais ils sont effacés avant que j'aie eu le temps de les lire par les nouvelles vagues qui arrivent, ne laissant derrière elles que d'énigmatiques fragments. Mon esprit retourne vers la maison de Nogata. Je me rappelle le jour où ma mère est partie. Je suis assis sous le porche et regarde le jardin sous le crépuscule de ce début d'été. Sur le sol, les ombres des arbres s'allongent. Je suis seul à la maison. Je n'en connais pas la raison, mais je sais que ma mère m'a abandonné. Je sais déjà que cet événement aura un impact décisif sur mon avenir. Pas parce que quelqu'un me l'a dit. Je le sais, c'est tout. La maison est déserte comme un poste de garde abandonné sur quelques frontières lointaines. Le soleil décline vers l'ouest. Je regarde les ombres envelopper progressivement le monde. Dans l'univers où règne le temps, rien ne revient jamais en arrière. Les tentacules de la nuit érodent progressivement tous les morceaux de la terre, jusqu'au visage de ma mère, présent il y a un instant encore, et bientôt englouti lui aussi dans ce royaume sombre et froid. Ce visage qui se détourne est automatiquement arraché de ma mémoire et s'efface petit à petit. Je pense maintenant à Mademoiselle Saiki, à son visage, son sourire calme et vague, la chaleur de sa main. J'imagine ma mère sous les traits de Mademoiselle Saiki, m'abandonnant alors que je viens d'avoir 4 ans. Je secoue involontairement la tête. L'image manque de naturel, elle ne semble pas appropriée. Pourquoi Mademoiselle Saiki aurait-elle agi ainsi? Pourquoi aurait-elle été obligée de me faire aussi mal, de détruire ainsi ma vie? Il doit exister une raison cruciale, profonde, qui n'a pas encore été élucidée. J'essaie de me mettre le plus possible à sa place, de ressentir ce qu'elle a ressenti. Ce n'est pas facile, car je suis celui qui a été abandonné, et elle, celle qui est partie. Mais je prends mon temps et mets de la distance entre moi et moi-même. Mon âme quitte les oripeaux rigides de celui que je suis aujourd'hui, devient un corbeau noir qui se pose sur une haute branche de pin et me regarde, tel que j'étais à 4 ans.